Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Présence Information Religieuse, Caribou et Le Libraire. Au programme, Pitié pour Haïti. La valse des lilas, jusque dans l'assiette. Un Dominicain australien banni de sa communauté. Et nos suggestions de lecture, poésie. Bonne écoute.
Pitié pour Haïti. Un texte de Louis Cornelier, paru le 14 mai 2023 dans Présence, Information religieuse. Je lis les nouvelles en provenance d'Haïti et je suis atterré, apeuré. Le 27 avril, l'agence France Presse, AFP, résumait la situation avec des mots qui font mal. Selon Maria Isabel Salvador, nouvelle émissaire de l'ONU dans le pays, la violence terrifiante est partout et la présence policière limitée ou inexistante. Des écoliers sont visés par des tirs ou enlevés, des femmes subissent des viols collectifs et près de la moitié de la population, c'est-à-dire 5 millions d'habitants, a besoin d'aide humanitaire. Le 12 mai, l'AFP citait un communiqué de l'UNICEF selon lequel la violence des gangs qui ravage Haïti a provoqué une augmentation de 30% en un an de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants. Des gens ordinaires, comme vous et moi, qui souhaitent vivre une vie ordinaire, comme vous et moi, sont pris dans cet enfer. Ça me bouleverse. Que faire devant une telle situation intolérable? L'urgence d'agir. Le 17 février 2023, dans Le Devoir, le politologue québécois Henri Milner s'affligeait de l'horreur qui a cours en ce pays, laissé à la merci des gangs qui comblent le vide politique. Selon Milner, il faut agir d'urgence en déployant une force armée internationale spécialisée, car il s'agit là de la seule solution réaliste pour rétablir une certaine normalité dans le pays. En janvier, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, disait la même chose. Le problème, c'est que l'ONU a les mains liées parce que, selon Milner, sa volonté d'action directe en Haïti est bloquée par les vetos russes et chinois. D'où l'appel à une mission non-onusienne dirigée par le Canada qui aurait notamment l'appui de la France, des États-Unis et du Mexique. Or, le Canada, pour le moment, refuse de s'engager dans une telle mission militaire. Affirmant vouloir garder le peuple haïtien au centre des solutions pour régler la crise, Justin Trudeau et son gouvernement choisissent plutôt d'offrir 100 millions de dollars pour le renforcement de la police haïtienne et d'imposer des sanctions économiques à certains membres de l'élite du pays soupçonnés de profiter du chaos. D'après le chef d'état-major de la Défense, le général Wayne Heer, les forces armées canadiennes, déjà engagées sur le terrain en Lettonie avec 700 soldats et sur le plan financier en Ukraine, n'ont pas la capacité de mener une éventuelle mission de sécurité en Haïti. D'autant moins qu'elles seraient en déficit de 16 000 militaires, selon la major générale Lise Bourgon, citée dans le même article de Radio-Canada. Pour Milner, le refus canadien de s'engager directement en Haïti est irresponsable. Les dangers d'une mission. Guy Taillefer, éditorialiste du Devoir pour les affaires internationales, témoignait lui aussi le 1er mai 2023 de l'horreur que lui inspire l'enfer haïtien, mais n'adhère pas à la solution proposée par Milner. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MIUSH, NUSTAH, déployée de 2004 à 2017, a laissé de mauvais souvenirs en étant entachée par des accusations de partialité politique et de crimes sexuels. La volonté américaine de sous-traiter la responsabilité d'une nouvelle mission en Haïti au Canada n'augure rien de bon. Le gouvernement Trudeau, par conséquent, a raison de résister à cet engagement dont la réussite serait pour le moins incertaine, écrit l'éditorialiste. Que faire dans ces conditions? Taille faire, comme Gilles Rivard, ancien ambassadeur du Canada en Haïti, appuie l'idée de renforcer massivement la police nationale d'Haïti, capable, si on lui en donne les moyens, d'endiguer la violence et de rétablir sa crédibilité. Il reste, conclut Taillefer, qu'il faudra aller plus loin pour sortir de l'impasse haïtienne, entretenue depuis des années, selon lui, par les membres du Core Group, une organisation internationale informelle composée notamment des ambassadeurs du Canada, des États-Unis, du Brésil, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France et de l'Union européenne en Haïti, trop souvent sourde aux voix avisées de la société civile du pays. La prière de Pierre Bourgault. Alors, faut-il intervenir ou pas? Mon désarroi rejoint celui que Pierre Bourgault, un de mes maîtres à penser, exprimait dans Le Devoir il y a 30 ans, plus précisément le 18 octobre 1993. Dans une chronique doucement intitulée « Haïti, mon amour », reproduite dans le recueil « La colère », petite collection Lanctot 2003, Bourgault se désolait déjà de la souffrance du peuple haïtien et confiait se désespérer de ne pas trouver les moyens ou la manière de lui faire partager une part de son bonheur tranquille. Il ajoutait pourtant, en assumant sa contradiction, ne pas perdre espoir pour demeurer fidèle à l'esprit haïtien. Que fait-on quand on ne sait plus quoi faire? Demandait-il en formulant la question qui me taraude. Il en appelait à l'exigence minimale du respect. Quand on est un étranger, écrivait-il, on doit avoir la décence de ne pas donner de leçons pour mieux laisser paraître le sentiment de respect qu'on éprouve pour l'indomptable caractère et le courage toujours réinventé du peuple haïtien. Quand on ne sait plus quoi faire, on peut encore au moins offrir son amitié, sa solidarité et sa fraternité. Et prier, concluait-il, même si on ne prie plus depuis longtemps. 30 ans plus tard, je prie encore, en demandant pitié pour Haïti. C'était « Pitié pour Haïti », un texte de Louis Cornelier, paru le 14 mai 2023 dans « Présence, information religieuse ».
La valse des lilas, jusque dans l'assiette. Un texte d'Émilie Bernier, paru le 22 mai 2023 dans la revue Caribou. Compte en commun Charles Aznavour, Fréhel, Michel Legrand, Barbara, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Maurice Chevalier et Cora Vauquer, ils ont tous et toutes chanté le lilas, promesse parfumée de l'été à venir. Et si on se le mettait à notre tour en bouche, littéralement. Quand les somptueux pompons mauves, blancs, fuchsia égaient enfin les villes et les campagnes qui n'en finissent plus d'épousseter les traces de l'hiver, tous les sens s'éveillent, dont ceux des chefs Pierre-Olivier Ferry et Fissounerka. Le premier est installé dans le bas du fleuve et la seconde à Saint-Blaise-sur-Richelieu. Le lilas les gratifie de son parfum capiteux et de son éblouissante floraison à quelques semaines d'intervalle, mais il l'espère avec la même impatience. Encapsuler le printemps. Pierre-Olivier Ferry, de l'atelier culinaire du même nom, a officié de nombreuses années aux cuisines des jardins de Métis. Il n'avait qu'à tendre la main hors de la fenêtre de la cuisine pour se servir, à la source, de cet ingrédient particulièrement odoriférant. Le lilas est enjôleur, il a quelque chose de très printanier qui appelle la saison des jardins. Il y a peu de fleurs dont on va extraire un parfum aussi enivrant, s'emballe-t-il. Mais attention, pour en saisir la quintessence, il faudra traiter les fleurs avec délicatesse. Elles supportent très mal la chaleur, le goût va complètement changer si on les chauffe, alors je vais les travailler à froid. La façon la plus simple et délicieuse d'y goûter est de défaire les petites fleurs une à une et de grignoter la base, plus tendre que les pétales, où se trouve tout le mielat. Tout le goût est là, un bonbon naturel. Cette façon de faire est toutefois fort circonscrite dans le temps. Heureusement, le chef a plusieurs astuces qui permettent de prolonger le plaisir quelques mois. Crème glacée, anglaise, pâtissière ou fouettée, gelato ou sorbet. Pierre-Olivier Ferry a apprêté le lilas sous mille et une formes, mais la simplicité a finalement meilleur goût et c'est en limonade au lilas ou lilanade qu'il le préfère. Cœur de lilas. Quand nous lui avons parlé, la chef du Bika Ferme et Cuisine, Fizoun Erkan, venait tout juste d'ouvrir sa nouvelle cantine à Saint-Blaise-sur-Richelieu et s'apprêtait, quelques jours plus tard, à accueillir les clients autour de sa réputée table champêtre. Malgré le tourbillon, elle trouvait le temps de reluquer les lilas avoisinants pour ne rien manquer de leur éblouissante floraison. « Je compte les jours », confie en riant celle qui adore cuisiner avec les tirses, nom scientifique des généreuses grappes fleuries. Elle en fait, entre autres, de délicieux sablés et une crème glacée où on distingue très nettement les fleurs qui ne perdent rien de leur éclat. J'infuse durant au moins une journée les fleurs dans la crème que je vais utiliser pour fabriquer la crème glacée. C'est fin, délicieux et joli. Dans le cas des sablés, la cuisson s'effectue à une température relativement peu élevée, ce qui permet de conserver l'intégrité et la couleur des fleurs, pour un coup d'œil charmant. Le joli temps du lilas. Pierre-Olivier Ferry se réjouit d'avoir réconcilié plusieurs aînés avec cette fleur longtemps associée aux enterrements. On n'enterrait pas l'hiver, on faisait ça au printemps et souvent, il y avait beaucoup de bouquets de lilas lors des cérémonies, rappelle-t-il. Aujourd'hui, fort heureusement, la fleur est bien davantage un merveilleux hospice de l'été qu'un memento des deuils amoncelés durant la morte saison. Le lilas, c'est l'arôme messager du printemps, un plaisir réconfortant, une beauté ultime à la table, dans la bouche, pour l'odorat, lance Fizoun Erkan comme une déclaration d'amour senti. Une fleur, trois recettes. La lilanade de Pierre-Olivier Ferry. Prendre plusieurs tirses de lilas et défaire soigneusement les fleurs. Attention à ne laisser aucune tige ni feuillage. Dans un grand récipient de verre, recouvrir les fleurs d'eau et faire macérer à froid durant au moins 48 heures, jusqu'à 72 heures. Filtrer. Pierre-Olivier Ferry y ajoutera quelques gouttes d'un vinaigre fin québécois, de verjus, de miel ou de sirop d'érable, mais on pourra aussi y presser quelques agrumes acidulés. Ce sera très bon aussi si on infuse avec le lilas des pousses de mélèze qui a justement un petit goût citronné. Le macérat aqueux, mélangé à part égale avec du sucre, servira également de base à un délicieux sirop simple. Sucre au lilas de Pierre-Olivier Ferry. On recouvre de sucre des fleurs soigneusement égrappées en faisant des étages, dans une proportion d'environ un tiers de fleurs pour deux tiers de sucre. on l'oublie un bon mois. On passe au tamis ou au moulin à épices. C'est délicieux sur des fraises ou pour aromatiser délicatement un dessert. Miel au lilas de Fisun Erkan. Dans le même esprit, soit celui de capturer l'essence du lilas, Fisun Erkan propose de faire macérer une généreuse quantité de fleurs fraîches dans le miel. Le miel au lilas se gardera longtemps, promet-elle, un parfum d'été à portée de la main. C'était La valse des lilas jusque dans l'assiette. Un texte d'Émilie Bernier paru le 22 mai 2023 dans la revue Caribou.
Recension. Un Dominicain australien banni de sa communauté. Un texte d'Ovid Bastien, paru le 12 juin 2023 dans Présence, Information religieuse. Un de mes confrères dominicains, Peter Murnen, vient de publier un livre qui pourrait intéresser, m'écrit en septembre 2022, un prêtre australien qui correspond avec moi depuis qu'il a lu mon livre « Pourquoi la crise des abus sexuels dans l'Église catholique ?» publié à compte d'auteur 2020. Je me procure donc son livre intitulé « Clerical Errors, How Clericalism Betrays the Gospel and How to Heal the Church » Resource Publications, 2022. Le premier chapitre porte sur les procès du leader le plus illustre de l'Église catholique australienne, le cardinal George Pell, ex-bras droit du pape François, responsable des finances du Vatican de 2014 à 2017. Ce qu'il raconte me laisse bouche bée. On sait que quelqu'un s'est trompé dans cette affaire, affirme Peter Murnan. Si Pell est innocent, l'erreur a été commise par le jury lors du second procès devant le tribunal de comté et répétée par la majorité des deux juges de la Cour d'appel de Victoria. S'il est coupable, l'ensemble du système judiciaire a aggravé une erreur cléricale de la pire espèce, permettant encore une fois au pouvoir et à la richesse cléricale de dissimuler la vérité afin que des crimes sordides contre des enfants ne soient pas traduits en justice. Que la Haute Cour australienne estime la preuve non établie hors de tout doute raisonnable ne constitue pas une preuve d'innocence, poursuit-il. Les preuves de l'avocat prestigieux, Robert Richter, selon lesquelles il serait impossible que le cardinal ait commis l'abus allégué, sont boiteuses. Certaines carrément fausses, osent-ils même lancer. Affirmer, comme certains le font, que le cardinal serait victime d'une conspiration ne tient pas la route, car il fait l'objet de nombreuses autres accusations. Même la Commission royale australienne sur les abus a conclu que 4 des affirmations du cardinal n'étaient pas crédibles, rappelle le Dominicain. Peter Murnan présente enfin une vue d'ensemble des abus cléricaux dans l'Église, fournissant des statistiques sur la crise récente qui éclate dans de nombreux pays. Il décrit avec une profondeur remarquable, ici cela ressemble beaucoup à ce qu'avance le théologien québécois Jean Guinadeau dans « Une profonde blessure, les abus sexuels dans l'Église catholique », Médias Paul, 2020. La souffrance énorme, souvent à vie, des victimes d'abus sexuels. Il démontre comment le droit canon a été façonné pour protéger et dissimuler les prêtres abuseurs, laissant de côté et condamnant au silence leurs victimes. Il énumère les autres erreurs cléricales qui trahissent l'Évangile. Colonialisme, inquisition, complicité avec des dictatures, création d'une caste cléricale au-dessus des laïcs qui s'arroge le pouvoir exclusif réservé aux hommes de célébrer l'Eucharistie. Il dénonce le fait que celle-ci se soit graduellement éloignée de son caractère communautaire pour ne devenir qu'un rituel où un célébrant, ontologiquement devenu un autre Christ, exerce un pouvoir divin. Il dénonce le cadre hiérarchique, évêques, archevêques, cardinaux, papes redevables à personne, qui trahit l'Évangile. Le courage et la transparence du dominicain Peter Murnan, tout au long de ce livre de 202 pages, m'ont étonné. Je décide de lui envoyer un courriel afin de le féliciter. Sa réponse, reçue le lendemain, m'a bouleversé. Les crimes de l'Église sont tragiques, incommensurables. Ma lente découverte de l'ensemble du portrait au cours des 56 années qui se sont écoulées depuis mon ordination m'a finalement conduit, il y a 4 mois, à quitter ma communauté dominicaine, dont de nombreux membres sont incorrigiblement cléricalistes à un haut degré, pour vivre comme un ermite de banlieue, survivant grâce à ma pension de retraite de l'État. J'ai explicitement présenté ce geste comme protestation contre le cléricalisme. J'affirme ma foi croissante dans les Évangiles et dans l'idéal de l'ordre dominicain, et je suis ami avec presque tous mes confrères. Je leur rends visite régulièrement et passe parfois la nuit chez eux lorsque le transport public s'avère difficile. Le prieur provincial a déclaré que je n'étais plus un prêtre en règle et m'a interdit d'exercer mon ministère en public. En agissant de la sorte, je pense qu'il est allé bien au-delà de ses droits légaux. Et voilà que le 20 novembre 2022, je reçois un autre courriel de Peter Murnan. Mon provincial m'a remis un précepte formel, m'écrit-il. Dans l'arsenal dominicain relatif à l'obéissance, c'est l'équivalent d'un lance-roquette. Il m'a dit que j'avais 1 mois pour retourner dans ma communauté et retirer le livre que je viens de publier, il est sérieux, sous peine de graves conséquences, n'excluant pas le renvoi de l'ordre. Âgé de 82 ans et confronté à une situation financière future carrément fragilisée, Peter Murnan n'a toujours pas retiré son livre. En décembre 2022, il a fait parvenir une lettre à la curie romaine lui demandant de suspendre le précepte formel et d'examiner son livre avec plus de discernement que les 3 réviseurs qui l'ont condamné au provincial. Il n'a toujours pas reçu de réponse, même pas un accusé de réception. Je songe à traduire et publier en français « Critical Errors ». Ce prêtre courageux mérite d'être entendu. C'était Recension, un dominicain australien banni de sa communauté, un texte d'Ovide Bastien, paru le 12 juin 2023 dans « Présence, information religieuse ».
Nos suggestions de lecture, poésie. Des suggestions de lecture des libraires indépendants proposées le 3 juin 2022 dans le carnet Je lis autochtone, une initiative de la revue Les Libraires. Tant que brille le soleil, Janet Rogers, traduction Tina Charlebois, édition David. Engagée politiquement, la poète slameuse autochtone aborde avec finesse et fermeté les questions coloniales et féministes, la sexualité et la spiritualité du point de vue d'une femme des Premières Nations. Tant que brille le soleil fait entendre une voix féminine autochtone unique, tourmentée par la beauté et la douleur du monde. Une suggestion des éditions David. Fif et sauvage, Shane Michael, personnage. Fif et sauvage est un livre à mi-chemin entre les identités acadiennes, queer et wallastokiques, entre les présupposés et l'affirmation. Fif et sauvage devient une sorte de réappropriation de sujets stéréotypés et de termes péjoratifs que l'auteur se permet d'utiliser afin de porter un regard honnête et brut sur soi et sur l'autre. Une suggestion de l'équipe de la rédaction. Ours bleu. Peachy Squanow, Mask et Squaw. Virginia Pessemapeo Bordelot, du Quartz. Dans cette rétrospective des 40 ans de pratique artistique de Virginia Pessemapeo Bordelot, l'artiste Eyo fait dialoguer ses œuvres et ses poèmes, créant une immense intimité avec son travail. Elle ajoute, ici et là, histoire, réflexion et anecdotes. Son œuvre, généreuse, puissante et maternelle, embrasse toutes les cultures auxquelles elle appartient. Une suggestion des éditions du Quartz. C'était « Nos suggestions de lecture, poésie ». Des suggestions de lecture des libraires indépendants proposées le 3 juin 2022 dans le carnet « Julie Autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, Robert Chartier et André Lebeau à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.